où il est démontré que 15 pas sont quelquefois plus difficiles à faire que 15 lieues. Margot ne marchait ni comme le cheval de Gros Charles, ni même comme celui de Martineau. On mit donc 2h30 pour gagner ce fameux bois d'Étouvelle qui inquiétait tant Gros Charles. Hâtons-nous de dire que cette inquiétude avait été fort exagérée par l'honnête maraîcher. Il voulait compléter sa bonne action en accompagnant Mariette le plus loin possible, mais il n'osait le faire sans la permission de Javotte. Et pour obtenir cette permission, il avait créé un danger qui n'existait pas, ou qui n'était pas aussi redoutable qu'il voulait le faire croire. Et comme Mariette avait ce doux privilège d'attirer les cœurs à elle, Javotte avait d'elle-même été au devant des désirs de son mari. Cependant, le bois d'Étouvelle eut bien pu donner quelques inquiétudes à Mariette si elle l'eût traversé seule. Elle y rencontra d'abord une espèce de patrouille de cosaques composée de 7 ou 8 hommes qui l'effrayèrent fort avec leurs barbes rousses, leurs longues lances, leurs étriers de cordes. Puis des soldats isolés ou en groupe. 3 de ceux-là même, au moment où la petite caravane allait sortir du bois, s'arrêtèrent comme pour lui barrer le passage. Sans doute, l'intention n'était pas bonne, car Bernard s'arrêta aussi et gronda en montrant des dents de lion. Ce grondement fut secondé d'un moulinet supérieur que Gros Charles exécuta avec un nouveau bâton d'épines qu'il portait à la main, et ces deux démonstrations, soutenues par la présence d'un jeune officier qui sortit du bois ayant tout vu, clouèrent les malintentionnés à leur place. En effet, à la vue de leur supérieur, les 3 grenadiers russes étaient restés debout immobiles, comme des termes antiques, le petit doigt de la main gauche à la couture de leur pantalon, la main droite à la hauteur de leur bonnet doré. Non seulement cet officier était jeune, mais encore c'était presque un enfant. Car cet autre empereur, celui du Nord, qui était venu peser sur nous, avait lui aussi été forcé d'épuiser d'hommes sa terre stérile et glacée. Pourtant, si jeune que fût l'officier, si blond que fussent ses cheveux, si rose que fût son teint, il y avait sur cette physionomie juvénile quelque chose comme un vernis de barbarie qui la rendait plus terrible que telle figure dure et virile que Mariette avait rencontrée dans son chemin. Il fit de la main un signe à la jeune fille qui, voyant que ce jeune homme avait l'intention de lui parler, arrêta Margot. Gros Charles n'était pas sans inquiétude, mais Mariette lui montra en souriant Bernard qui, d'un air caressant, allait au-devant du jeune homme. Celui-ci s'avança et, d'un ton moitié familier, moitié poli, « Eh, ma belle enfant !» lui dit-il. « Qu'y a-t-il donc ?»« Rien, monsieur l'officier !» répondit Mariette un peu tremblante. « Seulement, j'ai eu peur. »« Peur de quoi ?» Mais de ces 3 soldats qui paraissaient disposés à me barrer le passage ?»« Hein ?» dit l'officier avec un accent de mépris et de menace impossible à rendre. « Oh, mais !» dit Gros Charles en exécutant son 10e ou 12e moulinet. « Nous étions là, nous. »« Vous ?» dit l'officier avec un accent à peu près semblable dans sa double expression. « D'autant plus, se hâta de dire à la jeune fille que j'avais un laissez-passer du général en chef. »« Ah !» Et elle tendit vivement les papiers au jeune russe. Celui-ci le déplia lentement, un œil fixé sur les 3 hommes qui demeuraient aussi immobiles que s'ils eussent été de pierre, et, avec un certain étonnement, lut dans les 3 langues la triple injonction du général en chef. Puis, le laissé passer dans la main gauche, il alla en faire lecture aux 3 grenadiers, leur donna à chacun de la main droite un vigoureux soufflet sous lequel ne sourcillèrent point ses faces esclaves. Après quoi, revenant à Mariette, « Mademoiselle, dit-il avec un certain respect, où allez-vous ? Aujourd'hui, monsieur l'officier, « je vais jusqu'au village de Chivy, qui est à 1 lieue d'ici à peu près. »« Bien, » dit l'officier en lui remettant le laissez-passer. « Non seulement vous pouvez continuer votre chemin, mais encore, vous le continuerez avec une escorte. » Et se retournant vers les soldats, il leur donna en russe, d'une voix claire et impérative, un ordre dont Mariette et Gros Charles ne comprirent pas la teneur, mais dont ils virent l'exécution. Après avoir répondu au salut de l'officier et avoir remis Margot au pas pour profiter de la permission, Mariette et Gros Charles virent les 3 soldats russes pivoter sur eux-mêmes, et se mettant en marche, les suivre à 20 pas comme 3 automates, la main gauche à la couture de la culotte, la main droite à la hauteur de l'espèce de casque pointu qui couvrait leur tête. Ils devaient faire la lieue ainsi, aller et retour, et se retrouver dans la même position devant la porte du jeune officier à quelque heure qu'il rentra, et cela sous peine de 20 coups de verge chacun. Le jeune officier reprit tranquillement son chemin vers Étouvelle en faisant un dernier signe de la main à Mariette. Il était bien sûr que cet ordre serait exécuté à la lettre. Mariette fut attristée dans son bon cœur de ces soufflets donnés et de cette punition infligée à ces 3 hommes. Mais nous devons dire que tout au contraire, Gros Charles non seulement ne partagea pas sa pitié, mais encore qu'il donna l'essor à son hilarité chaque fois qu'en se retournant il voyait, toujours à la même distance, les 3 Russes, marchant au pas, et ayant, comme les ailes d'un moulin à vent, un bras en bas et l'autre en l'air. On arriva ainsi à Chivy. Les trois Russes, c'était leur consigne probablement, s'arrêtèrent à l'entrée du village, pivotèrent sur leurs talons comme ils avaient déjà fait, mais en sens contraire, et reprirent, toujours avec les mêmes raideurs et la même attitude, la route des Touvelles. Chivy est un petit village de 70 maisons à peine. Celle de la mère Sabot était située presque à l'extrémité, du côté de l'An. Plusieurs fois, elle était déjà venue sur le seuil de sa porte, interrogeant la route pour voir si on ne lui ramenait pas Margot. Une course que son mari avait à faire le lendemain au point du jour en transportant une partie de marchandises lui rendait ce retour urgent. Mariette se ressentit donc du bon accueil que l'on fit à sa monture. D'ailleurs, accompagnée et recommandée comme elle l'était par Gros Charles, tout devait aller de soi-même. Gros Charles raconta l'histoire de Mariette, histoire qui faisait toujours son impression sur les femmes, et le souper et le gîte furent offerts cordialement à la jeune voyageuse par le père et la mère Sabot. Quant à Gros Charles, heureux de sa bonne action, les jambes alertes et le cœur satisfait, il reprit tout courant, comme il l'avait promis à Javotte, la route de Chavignon où il arriva sans accident. Seulement, en passant par Étouvelles, il vit devant une porte qui sans doute était celle du jeune officier, les trois grenadiers russes redevenus immobiles et tenant toujours la main gauche à la couture de leurs pantalons et la droite à la hauteur de leur bonnet. Le jeune officier, selon toute probabilité, n'était pas encore rentré. Mariette dormit peu. Comment eut-elle dormi, se sentant si près de conscience ? Le premier rayon du jour la trouva debout, et quand le père Sabot, prêt à partir pour sa course, va frapper à sa porte, croyant la trouver couchée encore, elle accourut lui ouvrir tout habillée. Le père Sabot faisait route avec Mariette jusqu'à la hauteur de Chivy, c'est-à-dire jusqu'à une demi-lieue de long. Là, il quitta la grande route et prit un chemin de traverse. Mariette continua son voyage seule. Elle n'avait plus à se tromper ni à craindre. L'an était devant elle, s'élevant sur la hauteur couronnant ces plateaux qu'avait voulu, dans un dernier élan de désespoir, escalader le Titan, et sur lesquels il avait laissé inutilement 4000 morts et 3000 blessés. La jeune fille trouva la porte de la ville gardée par un poste russe. Mais à cette belle et gracieuse enfant, on ne demanda pas même à laisser passer. Elle entra donc et pénétra jusqu'à la place où s'élevait autrefois la tour mérovingienne de Louis d'Outremer. Elle dut demander son chemin, ne connaissant pas la ville. Elle s'approcha d'un factionnaire qui se promenait de long en large devant une maison où sans doute logeait quelque officier supérieur et lui demanda où était l'hôpital. Le factionnaire fit signe de la tête qu'il ne comprenait pas. Alors Mariette tira son laissez-passer de sa poche et le montra au soldat. Celui-ci ne savait pas lire, mais en voyant le grand cachet imprimé au bas du laissez-passer, il jugea bien que ce devait être un ordre ou une permission et fit signe à un sous-officier de s'approcher. Mariette salua le sous-officier plus poliment encore qu'elle n'avait fait pour le soldat et lui montra son laissez-passer. Le sous-officier trouva sans doute la chose assez grave pour avoir besoin d'en référer à un supérieur, car il remit respectueusement le papier à la jeune fille et alla chercher un officier. L'officier parut, frisant sa moustache. La vue de Mariette produisit son effet ordinaire, il s'avança vers elle en souriant. Puis, avec un français fortement accentué d'allemand, « Bonjour, la belle enfant !» dit-il, « à quoi peut-on fou être agréable ?»« Monsieur, dit la jeune fille, pourriez-vous m'enseigner le chemin de l'hôpital ? Il y en a deux des hôpitaux, auxquels voulez-vous aller ?»« À celui où est conscience, monsieur. » Qu'est-ce que c'est que conscience, mademoiselle ? Conscience, monsieur, c'est un pauvre Français qui a eu les yeux brûlés à la bataille de l'An. Et n'est-il cafalier ou fantassin, ce conscience ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur, répondit Mariette. Je vous demande s'il était à cheval ou à pied. Il était dans l'artillerie, monsieur, il conduisait un caisson. Ah oui, je comprends, c'était un hussard à 4 roues, comme nous disons-nous. Eh bien alors, c'est l'hôpital de la cafalerie. Et se retournant vers un soldat, il lui dit en allemand quelques paroles que celui-ci écouta respectueusement, la main à son shako. Puis à Mariette, « Suivez ce garçon, » dit-il, « et il vous conduira. » Mariette fit une révérence de remerciement à l'officier, lequel, en échange, lui envoya un baiser du bout des doigts en murmurant « Der Teufel, sehr schön, sehr schön !» Paroles qui n'eussent pas manqué de faire rougir Mariette si elle eût pu comprendre ce que disait le complaisant officier. Mais elle était déjà loin. Légère comme une gazelle, elle s'était élancée sur les pas du soldat qui, à son avis, allait bien doucement. Au bout de 5 minutes, le soldat prussien s'arrêta, lui montra une grande porte surmontée d'une croix de pierre sculptée devant laquelle se promenait, le bras gauche en écharpe et le sabre à la main droite, un factionnaire qu'à son reste d'uniforme, on pouvait reconnaître pour avoir appartenu au corps des cuirassiers. Le factionnaire regarda le prussien de travers. « Hier !» dit le prussien. « Hier ?» répéta la jeune fille. « Ja, hier !» dit le prussien. Mariette comprit. « Ah, dit-elle, cela veut dire que c'est ici et que nous sommes arrivés ?» Ya, dit le Prussien. Merci, merci, dit la jeune fille. Et elle s'élança vers la grande porte surmontée d'une croix. Mais le cuirassier lui barra le passage. On ne passe pas, dit-il d'une voix rude et en fronçant le sourcil. Comment on ne passe pas ? Dit la jeune fille, reculant effrayée. Non. Est-ce que vous n'entendez pas le français par hasard ?
Si fait, mais c'est justement parce que j'entends le français. C'est justement parce qu'il me semble que je parle à un compatriote que j'espérais pouvoir entrer.
Vous avez tort, puisqu'on n'entre pas.
Mon Dieu, mais qui défend donc cela ?
La consigne.
Monsieur le soldat, en grâce, je vous prie.
Allons arrière, dit le cuirassier.
Si vous saviez, je viens de si loin.
Allons arrière, on vous dit. Et il fit brutalement un pas de menace vers la jeune fille.
Mais monsieur, dit Mariette tremblante, j'ai un laissez-passer.
De qui ?
Du général en chef.
De quel général en chef ?
Du général en chef russe.
Connais pas le général en chef russe, dit le soldat de plus en plus irrité.
Oh mon Dieu, que faire et que vais-je devenir ?
S'écria Mariette en levant les bras au ciel et en éclatant en sanglots. Faites ce que vous voudrez et devenez ce que vous pourrez. Cela ne me regarde pas, pourvu que vous décopiez d'ici et lestement.
Dites donc, camarade, s'écria une voix derrière Mariette.
Il me semble que vous traitez bien rudement une pauvre fille.
Je ne connais pas les pauvres filles qui viennent conduites par des soldats prussiens avec des laissez-passer russes.
Le fait est, la belle enfant, dit le troisième interlocuteur, que la recommandation peut être bonne, vous comprenez, pour des Russes et pour des Prussiens. Mais pour des Français, mieux vaut venir sans guide ni recommandation et dire « Camarade, j'ai affaire ici » ou « J'ai besoin là, laissez-moi passer ». Mais pendant ce temps, Mariette s'était retournée et avait d'abord reconnu un uniforme qui ne lui était pas étranger. Puis, à travers les bandes qui emmaillotaient le front des soldats et lui cachaient un œil et une partie de la joue, elle avait deviné une figure de connaissance.
« Mon Dieu !» murmura Mariette. « Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que je serai assez heureuse pour vous avoir retrouvée ? Est-ce que... »«
Mariette !» s'écria le hussard. « Bastien !» s'écria Mariette.
« Ah, mon ami, à mon aide, à mon secours ! Je suis venue d'Aramon pour voir Conscience qui ne veut plus me voir, lui. Et je meurs, entendez-vous, Bastien ? Je meurs si je ne le revois pas. »
Et elle se laissa tomber à genoux, les bras étendus vers le hussard.
« Oh, soyez tranquille, Mariette !» dit Bastien. « Vous le reverrez, c'est moi qui vous le promets, ou j'y perdrai mon nom. »
Puis, s'approchant du cuirassier. « Camarade, dit-il, vous voyez, c'est une compatriote, une payse, une amie à moi, qui vient pour voir son amoureux, le pauvre Conscience. Vous savez bien, celui qui a eu les yeux brûlés. »«
Oui, dit le cuirassier, je sais cela.
Eh bien, la consigne défend qu'on passe et votre payse ne passera pas. » »«
Aussi, aussi, s'écria Mariette, il ne sera pas dit que je serai partie de la maison pour voir Conscience, que j'aurai promis à Madeleine de voir son fils ?» Que je serais venue ici à travers tant de dangers pour m'en retourner comme je suis venue. Oh, quand je devrais forcer les portes comme une voleuse, je passerai. Quand le sabre de ce méchant soldat devrait me percer le cœur, je passerai.
Elle fit un mouvement en avant, mais Bastien l'arrêta. Puis, la tirant en arrière, il se mit entre elle et le cuirassier. « Vous avez entendu, dit-il à ce dernier.
Quoi ?
Ce qu'elle a dit, la pauvre fille, qu'elle passerait quand votre sabre devrait lui percer le cœur.
Oh, connu toutes ces farces-là, dit le cuirassier, connu. »
« Ce ne sont point des farces, dit Bastien qui, dans son impatience, commençait à se mordre des moustaches, ce qui était mauvais signe chez lui. C'est de la vraie douleur, au contraire, des larmes véritables. Et un brave soldat, voyez-vous, camarade, ça peut voir couler le sang des hommes, mais ça ne peut pas voir couler les larmes des femmes. » Le cuirassier, sentant le léger accent de menace qui se glissait dans les paroles du hussard, cligna de l'œil. C'était sa manière à lui de faire comprendre qu'il n'était pas complètement satisfait. « Et tu crois comme cela, dit-il, que pour les pleurnicheries de ta payse, je vais manquer à la consigne et risquer 24 heures de salle de police, bien obligé. Et depuis quand ne risque-t-on pas entre militaires de faire 24 heures de salle de police pour rendre service à un camarade ? Ce serait volontiers pour une autre, et encore, cela dépendrait de la manière dont le camarade le demanderait. Pourquoi cela, volontiers pour une autre et pas pour celle-ci ? Parce que celle-ci connaît trop de Russes et de Prussiens pour être bonne française. Cuirassier, mon ami, dit Bastien. Tu sauras que c'est une bonne française du moment où c'est la promise de Conscience et l'ami de Bastien.
« N'importe, je n'en suis pas assez sûr pour risquer 24 heures de salle de police. »
La lèvre supérieure de Bastien disparut presque entièrement sous sa lèvre inférieure. « Cuirassier, mon ami, dit-il, quand c'est moi qui l'affirme, tu dois en être sûr. » Le cuirassier cligna si fort de l'œil qu'il eut l'air d'être borgne. « Et si ta caution ne suffisait pas, hussard de mon cœur, répondit le cuirassier, que s'en suivrait-il ? Il s'en suivrait que, comme j'ai dit que Mariette entrerait à l'hôpital ou que j'y perdrais mon nom, il faudra bien qu'elle y entre de gré ou de force, attendu que je ne veux pas perdre mon nom. Voilà.
Ton nom, veux-tu le dire afin que ce soir à 5 heures j'aille le crier assez haut derrière le rempart pour que tu l'entendes dans quelque lieu que tu sois ?
C'est bon, dit Bastien, à 5 heures du côté de Saint-Marcel. Tu n'auras pas besoin de crier bien haut, attendu qu'on y sera, et plutôt le premier que le second. Quoique tu aies des jambes plus longues que les miennes et un sabre plus long que le mien.
Oh mon Dieu ! S'écria Mariette toute tremblante. Bastien, Bastien ! « Si je comprends, vous allez vous battre à cause de moi ?»« Eh bien, quand ça serait, ma petite Mariette, dit Bastien en regardant la jeune fille de côté. On s'est battu quelquefois pour de plus vilains minois que le vôtre. Je ne veux pas, Bastien. Je vais aller demander pardon à ce méchant cuirassier, et je prierai tant qu'il me laissera passer. Oh, pas de ça, Lisette, ça gâte les manchettes, comme nous disions nos autres hussards. L'affaire étant manchée, il faut qu'elle se vide. Mais s'il allait vous arriver malheur par ma faute, Bastien, je ne m'en consolerai de ma vie. Oh, ne vous inquiétez pas, Mariette, histoire de rire. Bah, les gros talons ne sont pas si malheureux qu'ils en ont l'air. Et cela pourra bien finir par une bouteille bue à la santé du père, à tous, de celui qui est là-bas, de Nicolas, comme ils l'appellent, les imbéciles. Ainsi, laissez faire à Jean Chaudron sa marche et sa contre-marche devant la porte de l'hôpital, et venez avec moi. Comment ? Que je m'en aille avec vous ? Dit Mariette. Mais il faut donc que je m'en aille. Momentanément, dit Bastien. C'est indubitable. Mais Bastien, s'écria Mariette, je ne puis pas m'en aller sans avoir conscience. Vous avez cependant dit que je le verrai, Bastien.
Je l'ai dit et je ne m'en dédis pas.
Il regarda l'horloge de l'église. Eh bien, demanda Mariette.
Eh bien, répondit Bastien, ce sera avant une demi-heure.
Que je le verrai ?
Oui.
Oh, Bastien, mon cher Bastien. Seulement, il faut s'éloigner, s'asseoir sur ce banc de pierre et causer un petit quart d'heure raisonnablement. Oh, autant que vous voudrez, dit Mariette en s'asseyant près de Bastien. Mais dans une demi-heure, je verrai conscience ?
C'est-à-dire maintenant que vous le verrez dans 25 minutes, attendu qu'il y a 5 minutes qui sont déjà passées depuis que je vous ai fait cette promesse.
Et je le verrai malgré ce méchant cuirassier ?
Malgré lui.
Expliquez-moi cela, Bastien.
C'est bien simple, Mariette. Il ne sera pas toujours de garde à la porte de l'hôpital.
Ah, je comprends. À 9h, dans 20 minutes, un autre le remplace ?
Justement, Mariette, et comme son successeur ne sera probablement pas aussi chien que lui, il nous accordera ce que celui-ci nous a refusé.
Mais s'il nous refuse également ?
J'ai trouvé un moyen pour qu'il ne nous refuse pas, Mariette.
Lequel ?
Vous verrez cela.
Bientôt ?
Dans un quart d'heure, dit Bastien regardant à l'horloge.
Mon Dieu, que c'est long un quart d'heure !
Ça c'est vrai, quand on ne fume pas et qu'on ne boit pas, cela dure 15 minutes.
Bastien, vous m'y faites songer, mon ami. Vous avez peut-être encore rien pris ?
2 ou 3 petits verres, voilà tout.
Si je vous offrais quelque chose ?
Ma foi, comme je vais peut-être rester là 2 heures à croquer le marmot, ça n'est pas de refus, Mariette.
Eh bien, venez vite, dit Mariette en l'entraînant vers un cabaret qui faisait l'angle de la rue.
Venez, Bastien, car nous n'avons plus que 10 minutes.
Bah, 10 minutes, dit Bastien, en 10 minutes, on fait bien des choses.
Et Bastien entra dans le cabaret en criant. Garçon, une bouteille de vin, un morceau de pain et 2 verres.
Oh, monsieur Bastien, dit Mariette, je ne boirai pas.
Laissez donc, je sais un moyen de vous faire boire.
Vous êtes bien malin, alors, monsieur Bastien.
C'est ce que nous allons voir.
En prenant la bouteille, il versa quelques gouttes de vin dans le verre de Mariette et remplit le sien bord à bord.
Même ces quelques gouttes de vin, dit-il en prenant le verre plein.
Même ces quelques gouttes, vous savez bien que je ne bois que de l'eau, monsieur Bastien.
Bastien leva son verre.
À la santé de conscience, dit-il, et à l'espoir que vous le verrez dans 5 minutes.
Oh, si l'on est ainsi, dit Mariette, je ne refuse pas. Je craindrais que cela ne me porte à malheur.
Et elle répéta, la pauvre fille, en levant son verre comme celui de Bastien.
À la santé de conscience et à l'espoir de le voir dans 5 minutes.
Ah, je savais bien que vous boiriez, moi, dit le hussard en attaquant bravement le morceau de pain qui, au bout de 5 minutes, avait à peu près disparu, et la bouteille qui, au bout de 5 minutes également, se trouva tout à fait vide. 9 heures sonnèrent.